Chapitre 33. Martin perdait la bataille. Il avait beau se serrer la ceinture, ses maigres gains ne compensaient pas ses dépenses. Le jour de Thanksgiving, ayant une fois de plus dû mettre son costume noir au clou, il se trouva dans l'incapacité d'accepter l'invitation à dîner des morses. La raison de sa défection déplut beaucoup à Ruth, ce que voyant, il lui promit de faire l'impossible pour venir néanmoins. Il irait à San Francisco, dit-il, pour collecter les $5 que lui devait le Transcontinental, et avec cette somme, dégagerait son costume. Le lendemain, il emprunta 10 cents à Maria. Il eût préféré les emprunter à Brissenden, mais cet erratique personnage avait disparu. Martin, qui ne l'avait pas revu depuis 2 semaines, se creusait la cervelle en se demandant en quoi il l'avait offensé. Les 10 cents lui permirent de prendre le ferry pour San Francisco, et en arrivant à Market Street, il médita avec anxiété sur le sort qui l'attendait en cas d'échec de sa démarche. Sans argent, il ne pourrait pas rentrer à Oakland, et il ne connaissait personne à San Francisco susceptible de lui avancer le prix du billet. La porte du bureau du Transcontinental était entrouverte. Au moment de la pousser, Martin s'arrêta, alerté par une voix sonore qui venait de l'intérieur de la pièce. « Mais là n'est pas la question, monsieur Ford !» Martin savait par sa correspondance que Ford était le nom du rédacteur. « La question est, êtes-vous décidé à me payer ? Au comptant et en bon argent, je me fiche éperdument des perspectives du Transcontinental pour l'année prochaine. Ce que je veux, c'est être payé, et je vous préviens que le numéro de Noël ne sera pas mis sous presse tant que je n'aurai pas touché mes sous. Bien le bonjour, revenez me voir quand vous aurez l'argent. » La porte s'ouvrit en coup de vent, et Martin vit un homme furieux en sortir et disparaître dans le couloir en jurant dans sa barbe et en serrant les poings. Il décida d'attendre un peu avant d'entrer et traîna un quart d'heure dans le vestibule. Enfin, il poussa la porte. C'était une expérience nouvelle pour lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une salle de rédaction. Les cartes de visite n'étaient pas de mise ici. L'employé se contenta d'annoncer à travers la cloison qu'un homme désirait voir M. Ford. Et Martin fut introduit dans le bureau privé, le sanctuaire éditorial. Ce qui le frappa tout d'abord fut le capharnaüm qui régnait dans la pièce. Puis, il remarqua un homme d'apparence jeune, portant favori, assis devant un pupitre à cylindre, qui l'interrogea du regard. Martin fut émerveillé par la sérénité de son visage. La dispute avec l'imprimeur l'avait laissé de marbre. « Je suis Martin Eden, commença-t-il. Il n'osa pas ajouter « et je veux mes $5 », car c'était la première fois qu'il était en présence d'un rédacteur. Il ne savait comment le prendre et craignait de l'effaroucher. À sa surprise, Ford se leva d'un bond en s'exclamant « Pas possible !» et il serra la main de Martin avec effusion. « Je ne saurais vous dire à quel point je suis heureux de vous voir, monsieur Eden. Je me suis souvent demandé de quoi vous aviez l'air. » Il s'écarta pour l'envelopper du regard, passant en revue son piètre costume défraîchi, dont le pantalon rapiécé montrait un pli impeccable grâce au fer de Maria. « J'avoue que je vous imaginais beaucoup plus vieux. Votre nouvelle manifestait une telle vigueur, une telle maturité, une telle profondeur de pensée. Un chef-d'œuvre, cette histoire. Dès le premier paragraphe, j'étais fixé. Il faut que je vous raconte dans quelles circonstances je l'ai lu. Mais non, laissez-moi d'abord vous présenter à notre équipe. » Sans cesser de parler, Ford le conduisit dans un autre bureau, où il le présenta au rédacteur adjoint, M. White, un petit bonhomme gringalet, aux favoris duveteux et clairsemés, et dont la main avait une froideur maladive. « Et voici M. Hens. M. Hens est notre directeur financier. » Martin se retrouva en train de serrer la main d'un homme chauve, à l'œil sournois, dont le visage, bien qu'assez jeune, disparaissait à demi sous une barbe blanche comme neige, soigneusement taillée, par sa femme, qui faisait ça le dimanche, après lui avoir rasé la nuque. Les 3 hommes entourèrent Martin et se mirent à parler tous ensemble avec admiration, à croire qu'il s'agissait d'un pari pour déterminer lequel d'entre eux lui tiendrait le crachoir le plus longtemps. « Nous nous sommes souvent demandé pourquoi vous ne veniez pas nous voir, » disait M. White. « Je n'avais pas de quoi payer le ferry et j'habite de l'autre côté de la baie, » répondit Martin sans embâge, pour leur montrer à quel point son besoin d'argent était impérieux. Mes haillons sont sûrement assez éloquents par eux-mêmes, songea-t-il, et chaque fois qu'il parvenait à placer un mot, il essayait de réorienter la conversation vers l'objet de sa visite. Mais ses admirateurs étaient sourds à ses allusions. Ils chantaient ses louanges, lui décrivaient la forte impression que leur avait faite sa nouvelle, ainsi que ce qu'en avaient pensé leurs épouses et leurs familles, mais à aucun moment, ils n'évoquèrent leur intention de le payer. « Vous ai-je dit dans quelles circonstances j'avais lu votre petit chef-d'œuvre ? » demanda M. Ford. « Non, je n'ai pas eu le temps. Eh bien, figurez-vous que j'étais dans le train. Je revenais de New York, et à l'arrêt d'Ogden, le conducteur des wagons-lits est monté à bord avec le dernier numéro du Transcontinental. « Bon Dieu !» se dit Martin. « Tu voyages en Pullman pendant que je crève la faim à cause des malheureux $5 que tu me dois. » La moutarde lui monta au nez. Le tort que lui avait fait le Transcontinental lui paraissait colossal, tant ces mois de vains espoirs, de jeûnes et de privations pesaient sur ses épaules. En ce moment même, la faim le rongeait, il n'avait rien mangé depuis la veille. Il vit rouge. Ces paltoquets n'étaient même pas des escrocs. C'étaient de petits voleurs à la tire. Ils l'avaient endormi avec des mensonges et de fausses promesses pour lui soutirer son manuscrit comme des pickpockets. Eh bien, il allait leur montrer. Il se jura de ne point ressortir du bureau sans son dû. Il n'avait d'ailleurs pas le choix, sans argent, il ne pouvait pas retourner à Auckland. Il tâcha de se maîtriser, mais ses regards de bête fauve avaient déjà produit leur effet. Les autres sentirent que le temps se gâtait. Ils devinrent plus volubiles que jamais. Ford lui raconta une fois de plus comment il avait découvert le son des cloches, et M. Hans lui répéta avec enthousiasme que sa nièce, qui était institutrice à Alameda, avait immensément apprécié son œuvre. « Ce n'est pas pour entendre ça que je suis venu », dit finalement Martin. « Je suis venu me faire payer cette histoire qui vous plaît tant. $5. Vous m'avez promis $5 à la publication. » Monsieur Ford, qui avait un visage très expressif, acquiesça aussitôt avec bonhomie, porta la main à sa poche et s'interrompit brusquement pour se tourner vers Monsieur Hans en expliquant qu'il avait oublié son argent à la maison. Monsieur Hans ne dissimula pas son mécontentement et laissa machinalement retomber son bras comme pour barrer l'accès à la poche de son pantalon. Martin en déduisit que là se trouvait l'argent. « Désolé, dit Monsieur Hans, mais je viens de payer l'imprimeur et il a pris toute ma monnaie. Une négligence de ma part. Cette facture n'était pas arrivée à échéance, mais vous savez ce que c'est. Il avait besoin d'argent et je l'ai payé d'avance pour le dépanner. » Les deux hommes se tournèrent vers Monsieur White, qui haussa les épaules en riant. Lui, au moins, il avait la conscience tranquille. Il était entré au Transcontinental pour apprendre le métier de rédacteur et n'avait appris jusque-là que l'art de s'endetter. Le Transcontinental lui devait 4 mois de salaire et il savait que l'imprimeur serait réglé avant lui de toute manière. « C'est idiot, Monsieur Eden, mais vous nous prenez de court, » fit Monsieur Ford avec un détachement badin. « Négligence, négligence. Écoutez, voici ce que nous allons faire. Demain, à la première heure, nous vous enverrons un chèque. Vous avez l'adresse de Monsieur Eden, n'est-ce pas, Monsieur Hans ?»« Oui, Monsieur Hans avait l'adresse et le chèque serait envoyé le lendemain à la première heure. » Les connaissances de Martin en matière de procédure bancaire étaient assez brumeuses, mais il ne voyait pas pourquoi le chèque ne pouvait pas lui être remis le jour même. « Alors, c'est entendu, Monsieur Eden ? Nous vous posterons ce chèque demain, » conclut Monsieur Ford. « J'ai besoin de cet argent aujourd'hui, » s'obstina Martin. « Quel malchance ! Si vous étiez venu un autre jour, » commença Monsieur Ford d'un ton mielleux. Mais Monsieur Hans, qui, comme le montraient ses yeux de fouine, avait des vues terre à terre, coupa court à la discussion. « Monsieur Ford vous a déjà expliqué la situation, » trancha-t-il avec exaspération. « Le chèque vous sera envoyé. Je me suis expliqué aussi, il me semble, » répliqua Martin. « Je veux cet argent aujourd'hui. » La brusquerie du directeur financier lui avait échauffé le sang et il le surveillait du coin de l'œil, convaincu que les liquidités du Transcontinental dormaient dans la poche de son pantalon. « C'est bien dommage, » reprit M. Ford. Au même moment, M. Hans se détourna avec impatience et s'apprêta à prendre congé. Il n'en eut pas le temps. Martin se jeta sur lui et le prit à la gorge avec une telle poigne que sa barbichette pomponnée pointa vers le plafond à un angle de 45 degrés sous les yeux horrifiés des Sieur White et Ford qui virent leur directeur secoué comme un tapis d'astrakhan. « Vite tes poches, vénérable affameur de jeunes talents !» s'écria Martin. « Vite tes poches ou je te secoue jusqu'à ce que le dernier sou en tombe !» Puis, s'adressant aux deux spectateurs terrifiés, « Restez où vous êtes, si vous bougez, il y aura des blessés !» M. N. suffoquait et dut attendre que l'étau de la main de Martin se desserrât pour signifier son acquiescement. Il s'empressa de fouiller dans ses poches. 4 $ et 15 cents furent toute sa pêche. « Retourne-les !» ordonna Martin. 10 cents supplémentaires tombèrent. Martin vérifia une seconde fois le produit de ses fouilles pour s'assurer que le compte n'y était pas. « À toi maintenant » cria-t-il à M. Ford. « Il me manque 75 cents !» M. Ford s'exécuta promptement, mais ses poches ne recelaient que 60 cents. « C'est tout ?» demanda Martin, menaçant, en faisant main basse sur les pièces. « Et dans les poches de ton gilet ?» Pour preuve de sa bonne foi, le rédacteur retourna ses poches là aussi. Il en dégringola un rectangle de carton qu'il ramassa. « Qu'est-ce que c'est ?» fit Martin. « Un billet de ferry ? Donne. Ça vaut 10 cents. Je prends. J'ai maintenant 4 $ 95, en comptant le billet. Il me manque encore 5 cents. » Il foudroya du regard M. White, et le gringalet s'empressa de lui tendre une pièce. « Merci !» lança Martin à la cantonade. « Je vous souhaite le bonjour. »« Schnappant !» grogna M. Hans. « Voleur !» rétorqua Martin, qui s'éclipsa en claquant la porte. Martin était si content du tour qu'il leur avait joué que, se rappelant que The Hornet lui devait 15 $ pour la Perry et la Perle, il décida d'aller les récolter séance tenante. Mais le Hornet était dirigé par une équipe de jeunes gaillards fringants et sans rouflaquettes, de vrais pirates qui volaient tout et tout le monde, sans s'épargner entre eux. Après un beau chahut et quelques meubles cassés, le rédacteur, un ancien champion de boxe universitaire, efficacement secondé par le directeur financier, l'attaché de presse et le portier, réussit à expulser Martin du bureau et à lui faire redescendre les marches en roulé-boulé. « Au plaisir, monsieur Eden, vous serez toujours le bienvenu !» lui cria-t-on en s'esclaffant du haut du palier. Martin se releva en ricanant. « Bah ! » bougonna-t-il. « Au transcontinental, il n'y avait que des gringalets, mais vous êtes de fameux lutteurs, les gars !» Nouvel éclat de rire. « Je dois avouer, monsieur Eden, répondit le rédacteur, que pour un poète, vous ne vous défendez pas mal non plus. Où avez-vous appris cette clé de bras, si ce n'est pas indiscret ? Là où vous avez appris ce double Nelson. N'importe. Demain, vous vous réveillerez avec un œil au beurre noir. J'espère que je ne vous ai pas brisé le cou, reprit le rédacteur avec sollicitude. Qu'est-ce que vous diriez si on arrosait ça tous ensemble ? Pas votre cou brisé, mais notre petite bagarre. Honneur au vainqueur, concéda Martin. Et, voleurs et volés burent ensemble, convenant à l'amiable que la victoire appartenait au plus fort et que les 15 $ de la Perry et la Perle revenaient de droit au comité de rédaction du Hornet.